France Inter.fr.
France Inter. Hélène Philly. Le 6-9 de l'été.
Ah bah vous êtes revenu à l'embarras.
Je suis là, Hélène, je suis là.
Ça tombe bien. Avec vous ce matin, on parle d'Edmond Rostand qui aimait le Pays Basque, le jardin et Cyrano de Bergerac.
Alors, comment ne pas citer l'une des plus fameuses tirades du théâtre français? Et je vais en profiter pour tester votre culture. Si je vous dis, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap.
Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule.
Bravo.
Hein, à peu près,
alors,
je l'ai.
Bravo. Alors, Edmond Rostand est né à Marseille le 1er avril 1868. En 1900, eh bien, il est d'une petite santé un petit peu fragile. Il va donc louer dans les Pyrénées-Atlantiques une maison pour se soigner d'une pleurésie. Il tombe, et on le comprend, sous le charme du Pays Basque et de la petite ville de Cambo-les-Bains.
Alors la suite est classique, hein, il achète un terrain et il y construit une maison.
Et oui, et les travaux sont importants et durent 3 ans, de 1903 à 1906. Edmond Rostand s'intéresse à tout et particulièrement au jardin. Son fils Jean, lui aussi écrivain et célèbre biologiste, écrit. De sa main, il avait dessiné chaque parterre, chaque massif, chaque plate-bande, marqué l'emplacement de chaque bosquet d'arbres, de chaque buisson. Il avait longuement réfléchi sur la disposition d'une roseraie, sur la hauteur d'une charmille, sur la taille d'un nif, sur la courbe des guirlandes de lierre qui unissaient les platanes de la grande allée.
Alors comment est-ce qu'on peut définir le style de ce jardin?
Alors pour être précis, il n'y a pas un mais des jardins. D'abord un jardin à la française orné de 3 bassins et entouré de bosquets semblables à des petits bois. D'ailleurs, Rostand aimait bien parler de sa petite forêt. On découvre aussi un jardin alpin. Alors j'en profite pour rappeler que le type de jardin montagnard se dit alpin, même si on est dans les Pyrénées bien évidemment. Et puis il ne faut pas non plus oublier cette petite touche de romantisme, avec une pergola qui ferme la perspective, sans pour autant bloquer le regard, c'est la subtilité, vers la montagne, cette fois-ci la vraie, celle des Pyrénées.
Et on visualise très bien, grâce à vous. Hein,
la très villa bel endroit, en
vrai. S'appelle Arnaga. Pourquoi ce nom?
Alors simplement du nom de la rivière qui passe en contrebas et qui s'appelle Arnaga. Rostand s'est contenté de changer une lettre dans le nom. Pourquoi? Je n'en sais, par contre, absolument rien. Alors ce que je sais, c'est que tout va changer dans cette maison en 1918, après le décès d'Edmond Rostand. La propriété est vendue par la famille et passe de main en main jusqu'en 1960, date à laquelle la commune achète l'ensemble pour en faire le musée Edmond Rostand.
Arnaga a été classé monument historique en 1995.
Oui, il est aussi bien sûr classé jardin remarquable. La maison et le jardin sont situés au sud et à une petite vingtaine de kilomètres de Bayonne et ils sont ouverts tous les jours. Alors, petite précision, Hélène, si demain vous allez visiter cette propriété, je vous encourage vivement de le faire. N'oubliez pas de lire le 4-1 gravé à l'entrée de la maison. Toi qui viens partager notre lumière blonde et t'asseoir au festin des horizons changeants, n'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde et ne raconte pas ce que disent les gens.
C'est beau ça quand même.
J'ai toujours été admiratif de ces auteurs, de ces hommes, de ces femmes qui sont capables d'employer les mêmes mots que moi, mais eux, ils écrivent de véritables mélodies.
On passe aux questions des auditeurs ensemble à présent avec une première question, celle de Valérie. Que pensez-vous d'un goutte-à-goutte pour arroser les plantes de mon balcon?
Alors, je suis pour et je suis contre. Alors, je suis contre et violemment contre.
Mais un goutte à goutte, déjà, vous nous dites, c'est quoi?
Alors, un goutte à goutte, c'est tout simplement relier les pots par un petit tuyau où l'eau va justement pénétrer la terre goutte par goutte.
D'accord.
Tout simplement. C'est une technique d'arrosage qui permet à la terre de recevoir peu d'eau, mais d'en recevoir de manière constante. Alors, je suis violemment pour et violemment pour et contre. Violemment pour, parce que quand vous partez en vacances, eh bien, il n'est pas stupide d'installer un goutte à goutte, ce qui vous permettra d'arroser vos plantes en votre absence et de les retrouver en parfait état. Mais le reste de l'année, une plante, c'est une relation qu'il y a avec vous. Quand vous l'arrosez, vous la câlinez, vous avez une relation avec le végétal.
Parlez.
Eh ben, c'est important. Vous vous renseignez sur sa santé. Vous regardez si éventuellement il n'y a pas des petites bêtes douteuses sur les feuilles. En un mot, je suis pour le contact direct. Et puis, si vous avez des plantes et que vous n'arrosez même pas celle-ci, où est l'intérêt d'en avoir? Donc, oui, pour le goutte à goutte, quand vous n'êtes pas là en été. Non, le reste du temps, on s'occupe de ces plantes.
Deuxième question.
Oui.
Celle de Charles. Est-il vrai qu'il est déconseillé de planter des lauriers roses dans les endroits fréquentés par les enfants?
Il ne faut pas exagérer. Alors, il est vrai que le laurier rose est une plante qui est, toxique. C'est-à-dire qu'il faut éviter de toucher le contact, les feuilles, je veux dire. Tout comme il faut éviter que les enfants ne mettent dans leur bouche, quand vous avez des tout petits enfants, les feuilles de laurier, car la plante est toxique. Mais, bon, cela reste, c'est pas non plus une plante redoutablement dangereuse. Les enfants, s'ils sont présents dans un jardin, peuvent être maintenus à distance du laurier. Ils peuvent passer à côté sans avoir envie forcément de le toucher.
Et si jamais ils en mangent, il faut faire quoi?
Non, alors, faut éviter qu'ils en mangent, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des raisons à ce qu'un enfant mange des feuilles dans un jardin? Alors ça arrive. Moi, je fais partie d'un réseau d'identification pour des plantes toxiques. Ouais. Chaque fois qu'en France, un gamin est emmené à l'hôpital parce qu'il a mangé une baie, un fruit ou une fleur indésirable, je reçois avec quantité d'autres et tout un réseau copie de la fleur, de la feuille ou de la feuille pour tenter d'identifier le végétal et voir la toxicité. Alors, le laurier rose fait partie des plantes toxiques. C'est pas un drame. Si on a un petit enfant qui a tendance à tout mettre à la bouche, oui, il faudra mettre une protection. Donc, on évitera dans ce cas-là de planter un laurier rose. Mais dans le sud, il y a quantité de laurier rose, il y a quantité d'enfants et ils sont tous souriants.
Question de Denise à présent, est-il possible de planter une haie en juillet? Et si oui, avec quels arbustes?
Alors c'est possible à la condition de planter en conteneur. En conteneur, c'est-à-dire en pot, mais cela vous obligera bien évidemment à faire des grands trous, mettre de la terre, de la bonne terre comme d'habitude d'ailleurs, mais d'arroser considérablement. Et n'oubliez pas non plus que planter en conteneur coûte beaucoup plus cher. Donc oui, c'est possible, mais il est préférable de planter à l'automne ou au printemps en règle générale. Mais il est vrai que parfois, eh bien ceux qui nous écoutent ne profitent de leur maison qu'en juillet ou en août. C'est l'époque où ils ont en plus le temps pour faire des plantations. Donc allez visiter les pépiniéristes. Oui, c'est possible. Mais attention, les plantes en pot, c'est un peu comme les grands crus du Bordelais, voyez-vous. Plus le pot est grand et plus le prix devient disproportionné.